Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Ils sont trois. Trois à goûter chaque jour à la montagne pour ce qu'elle a de plus authentique. Cette montagne, ils la vivent différemment, avec singularité et passion.
C'est un métier où c'est très intense, 6 mois de l'année, et le reste de l'année, j'ai du temps pour moi. Trouver un équilibre comme ça, parce que sinon je ne sais pas m'arrêter. Et donc je trouve ça dans le refuge.
La semaine dernière, c'est Alain Ledoux, guide de haute montagne, qui nous a fait voyager dans son monde. Aujourd'hui, on vous amène à la rencontre de la gardienne du refuge de Prarion à Val d'Isère. De son amour pour la montagne à sa manière bien personnelle de garder son refuge, elle nous a invités, et vous avec, à partager une page de son quotidien atypique.
Je m'appelle Meige, j'ai 32 ans, je suis originaire de Haute-Savoie, je suis née à Annecy, donc j'ai toujours évolué en montagne. Et peut-être que mon nom me prédestinait à faire ce métier-là, car la Meige est une des montagnes emblématiques des Écrins. Et on a rapidement déménagé dans le Val d'Arly, donc à Éry-sur-Ugine. Et là, ça a été vraiment, on a grandi en mode petite maison dans la prairie. J'étais non scolarisée, donc école à la maison. On évoluait au milieu des poules, des ânes, des lapins. On faisait les foins, on vivait au rythme des saisons. Et on était un peu coupé du monde. Les voisins les plus proches étaient à 2 kilomètres à vol d'oiseau. Et c'était un peu le paradis où il y avait plein d'enfants tout le temps, plein d'amis. C'était une belle enfance qui m'a donné le goût des choses simples. Et cette connexion à la nature que je pense, que je cultive aujourd'hui en tout cas... au refuge. Alors ma toute première expérience en refuge, c'était il y a très très longtemps. J'étais pour les 30 ans de ma mère, où on avait loué un refuge pour faire son anniversaire, et on était une quarantaine. Après je me souviens d'une autre expérience, où là pour le coup c'était pour les 40 ans d'un ami de mes parents, qui est garde du parc de la Vanoise. Et là, on était dans un refuge, j'étais plus âgée, j'avais 12 ans, je crois. Et pour le coup, cette expérience-là m'a vraiment marquée. Je me suis dit que c'était une vie incroyable que de tenir un refuge et d'accueillir les gens et d'être en lien avec les éléments. Mais à l'époque, je me rendais pas compte de tous les enjeux et toute la logistique qu'il y avait derrière. C'était le côté magique. Et aujourd'hui, c'est ce qui me plaît dans ce métier. C'est que quand les randonneurs arrivent au refuge, ils se rendent pas compte que derrière, il y a une logistique de dingue pour que ça tourne, pour qu'on ait de l'eau, pour qu'on ait de l'électricité, pour qu'il y ait à manger. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on anticipe en amont, les rythmes des journées. Et puis, à un moment donné, il y a eu la proposition de travailler en refuge, une gardienne qui m'a proposé de passer un été avec elle. Et je me suis dit, chiche, je vais aller voir comment ça se passe de l'autre côté. C'est une belle proposition. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé en tant qu'aide gardienne au fond des fours. L'année de mes 28 ans. Ça a été une belle aventure, mais à la fin de l'été, je me suis dit plus jamais. J'avais juste l'impression d'être enfermée dans la montagne et je ne l'ai pas très bien vécu. Et il a fallu qu'il y ait la saison d'hiver d'après, que je me retrouve à Chamonix et que par hasard, je croise mon ancien prof d'aïkido qui est aujourd'hui gardien de refuge et qui me dit « Mais je cherche quelqu'un pour début février, est-ce que ça te dit de bosser avec moi ?» On était genre le 29 janvier et je lui ai dit « Ok, je commence quand ?» Il m'a dit « Dans 2 jours ». Je lui ai dit « D'accord ». Et là, j'ai adoré. Et du coup, ça s'est fait petit à petit. La gardienne pour qui j'avais bossé l'année d'avant m'a rappelé en me disant « j'attends mon deuxième enfant, il faut quelqu'un qui tienne le refuge à ma place sur la fin de saison et sur l'été parce qu'en fait, je serai là, mais je serai enceinte de 8 mois et donc je ne pourrai pas vraiment être dans la gestion quotidienne du refuge de façon physique. » Et du coup, on a fait un super binôme et c'est suite à cette expérience que j'ai décidé de passer le DU gardien de refuge qui se passe à Foix. Et du coup, j'ai candidaté. Il y a pas mal de candidatures. J'ai été prise à l'écrit. Mon dossier est passé. J'ai fait l'oral. J'ai fait partie des 13 qui ont été choisis. Alors que normalement, il faut le niveau bac et que j'ai pas le bac. Voilà. Ça s'est enchaîné très rapidement. Il y a eu l'appel d'offres pour le Prarion. Des dizaines de copains m'ont envoyé l'annonce. Et je me suis dit, j'essaye d'écrire un dossier. Et si je suis à l'oral, ça veut dire que j'écris un bon dossier. Mais avec aucun espoir de l'avoir. Et puis, du coup, je suis arrivée à l'oral. Et puis du coup, j'ai eu le Prarion et j'ai su que j'avais le Prarion alors que j'avais pas. C'était le tout début de la formation gardien de refuge. Du coup, tout est allé très très vite. Et donc là, j'attaque ma deuxième saison au Prarion dans un bâtiment tout neuf.
Du coup, c'est en fait l'ail confit que j'ai fait confire l'année dernière parce qu'en fin de saison, il nous restait plein d'ail. Et du coup, je savais pas quoi en faire et je voulais pas qu'elle s'abîme. Et congelé, je trouve que c'est pas hyper top.
Alors le refuge de Prarion, c'est un refuge du parc national de la Vanoise qui se situe en Haute-Tarentaise sur la commune de Val-d'Isère. C'est un refuge qui est à 2324 mètres d'altitude dans un vallon herbeux rempli de marmottes avec une diversité de flore incroyable qui se situe au pied des glaciers des sources de l'Isère à la frontière italienne avec le Grand Paradis. C'est un refuge qui a été construit en 1969, je crois, je sais plus, 65, qui a été réhabilité 30 ans plus tard, et là, qui vient d'être à nouveau réhabilité. Donc, on repart sur un nouveau bâtiment, qui a été agrandi, qui est très moderne, et en même temps, très épuré. Alors, il a 2324 mètres, et on a 40 places en dortoir, et 10 places en bivouac. Pour tenir le refuge, je ne suis pas toute seule.
La deuxième,
vous voulez une pomme, du coup, prends des pommes.
Tu les laves,
Elles sont lavées, celles-là. C'était celle que tu les avais lavées pour le petit déj ce matin. Ouais, il y avait encore une goutte d'eau dessus. Je me suis dit, c'est bon, elles sont lavées. On va prendre un couteau. Là-dedans, on va faire un petit truc bonus magique.
C'est quoi?
Des petites dames de coffre.
Je suis entourée d'une sacrée belle équipe. Cet été, j'embauche 6 personnes. Donc en fait, on a une obligation de garder du 15 juin au 15 septembre. Donc pour ce début de saison, j'ai 2 personnes avec moi. Et à partir de juillet, on sera constamment 4 au refuge. C'est un refuge qui est assez polyvalent dans le sens où le midi, on fait énormément de repas. On a plutôt un profil un peu restaurant d'altitude. On enchaîne avec des goûters tout l'après-midi. Et le soir, on accueille un public très varié parce qu'on a autant des alpinistes qui viennent faire avec des guides ou sans guide des courses. Donc la Grande Aiguille Rousse ou la Pointe de la Galise ou l'Arête Sud de la Galise ou encore d'autres courses d'escalade. Et après, on a un public plus familial qui vient vraiment avec l'objectif nuit en refuge. Donc ça fait en fait des journées à rallonge parce qu'on a les alpinistes qui vont se lever très tôt le matin, vers 3h, 3h30. Et après, on a les familles ou les groupes d'amis qui, eux, vont plutôt se lever. Alors en refuge, la grasse mat, c'est jusqu'à 7h30. La vie en refuge commence très tôt parce que nos journées sont très denses et puis on vit aussi au rythme du soleil. Donc le matin, moi typiquement ma journée commence entre 5h30 et 6h, plutôt 5h30, où je vais préparer le petit déjeuner. Pour les alpinistes, on a préparé des thermos la veille. S'ils sont nombreux, on se lève, donc ça fait des nuits un peu décousues. Et puis après, tout s'enchaîne très rapidement, donc on pétrit le pain, pendant que le pain lève, on va commencer à préparer les gâteaux pour le dessert du soir, on va commencer à préparer les tartes pour le midi, on va couper les légumes, éplucher, découper les légumes pour la soupe du soir. Voilà, tout s'enchaîne pendant qu'une autre partie de l'équipe fait la totalité du ménage parce que c'est un gros boulot tous les jours de remettre en ordre le refuge pour que chaque randonneur qui arrive trouve un lieu propre, accueillant, chaleureux. Et puis, on enchaîne avec le service du midi, qui dure ici 2 heures. De midi à 14 heures, on sert la carte salée. Et puis, tout l'après-midi, la fameuse tartelette aux myrtilles, des crêpes, des petites douceurs sucrées, des planches de charcuterie ou de fromage. En milieu d'après-midi, vers 16 heures, arrivent les randonneurs qui vont passer la soirée avec nous et qui vont dormir au refuge. Donc, on les accueille, on les installe. Là, il y a la personne qui cuisine. Donc, soit c'est moi, soit c'est quelqu'un de l'équipe, un aide-gardien ou une aide-gardienne qui cuisine le repas du soir. Et le repas du soir est servi, alors en même temps que les poules, souvent on nous le dit, mais à 19 heures. Et c'est un repas qui est commun pour tout le monde. Donc ça commence toujours par une soupe, après un plat principal, un fromage et un dessert. Pour tout mon approvisionnement, je travaille majoritairement en bio. Et si c'est pas bio, c'est local. Ou c'est bio et local. C'est vraiment un point d'honneur qui me tient à cœur de par mon parcours passé. Et puis parce que je trouve que être alors c'est très personnel cet avis-là, mais être en pleine nature dans cet environnement préservé, pour moi on se doit d'avoir une empreinte environnementale la plus neutre possible. Et du coup de choisir du vrac, de gros conditionnements pour avoir réduire les déchets vraiment à la base. Et puis aussi les kilomètres. Alors oui, on a du thé, on a du café, on a du chocolat, mais on a aussi de la farine qui est faite par un meunier pas très loin d'ici. La viande de porc est élevée par un élevage porcin chez Karen, qui est à Venton, juste à côté d'Albertville, donc pas très loin. Le fromage vient de la coopérative de Bourg-Saint-Maurice. Les confitures sont faites maison. On fait énormément de choses nous-mêmes, tout ce qui est donc pain, pâtisserie, tartelettes, mais également les savons pour se laver les mains. Donc ça, c'est des choses que je prépare pendant la saison creuse. Donc pendant la saison creuse, c'est le moment où je vais anticiper les pestos d'ail des ours, les chutneys d'oignons, les savons. C'est là où je vais refaire des tabliers, où j'ai fait moi-même les sacs à viande avec des draps de récup chinés dans des hôtels qui fermaient. Et du coup, on loue des sacs à viande en coton qu'on lave parce qu'on a la chance d'avoir une grosse capacité énergétique. Du coup, au niveau énergie, on a 2 sources d'énergie. On a 6 kilowatts de panneaux solaires et 6 kilowatts de picot central. Donc une picot centrale, c'est une mini centrale hydraulique. Donc en gros, il y a un captage d'eau dans un torrent. Après, il y a une chute. Et donc c'est une chute de 60 mètres. La hauteur de la chute va donner la puissance en kilowatts. 12, 60 mètres, 6 kilowatts. Et donc, c'est un entretien au quotidien parce qu'après un gros orage, il faut aller déboucher le captage. C'est quelque chose de très physique et il faut l'anticiper avant de se retrouver en rade d'électricité parce que du coup, c'est un refuge qui a été pensé sans groupe électrogène parce qu'on a une grosse capacité énergétique à côté. Mais du coup, sans groupe électrogène veut dire qu'il faut être vigilant à la maintenance de ses panneaux solaires et de sa picot centrale pour pas se retrouver dans le rouge. On a 2 congélateurs, on a un frigo, on a une tireuse à bière, on a un mixeur, on a beaucoup d'équipements électriques par rapport à pas mal de refuges parce qu'on a cette capacité-là. Donc voilà, c'est un entretien au quotidien, tout comme l'approvisionnement en eau du refuge. Donc on est sur un refuge qui a la chance d'avoir 3 captages et de pas manquer d'eau, en tout cas pas pour l'instant. On n'en manque pas parce qu'on est au pied d'un glacier. C'est pas forcément quelque chose qui durera dans le temps parce que les glaciers fondent très vite. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un captage de printemps, donc qu'on utilise en début de saison quand le captage d'été est encore sous la neige ou inaccessible. On a un captage de secours qui est dans un torrent qui, comme son nom l'indique, c'est notre captage de secours. Lui, il coule toute l'année et il nous permet de faire tampon si on a des problématiques de tuyaux qui pètent ou autres. Donc les eaux en refuge, c'est des eaux qui sont très faibles en minéraux. Elles n'ont pas le temps de se charger. Et du coup, pour nous qui vivons là 3 mois d'affilée, c'est important de boire d'autres eaux. Parce que du coup, sinon on se déminéralise complètement. Parce qu'en fait, l'eau va chercher à se minéraliser. Et du coup, quand on la boit, elle va venir chercher les minéraux qu'on a en nous. Donc on complète pas mal notre alimentation avec de la spiruline, avec de l'argile, principalement spiruline, argile, pour avoir des minéraux. Et puis, on s'impose de monter de l'eau en bouteille un peu pour boire une autre sorte d'eau de façon assez régulière, pour pas finir la saison complètement HS. Déjà quoi, c'est un rythme intense, mais si en plus on se déminéralise, ça devient compliqué, et pour tenir dans la durée sur les saisons et ne pas avoir de carences et autres, c'est super important.
Ah, oh, ça trop stylé.
Alors pour l'approvisionnement, du coup, en début de saison, on fait un très très gros héliportage. Donc c'est un peu le moment clé à pas louper, parce que tout ce qui monte pas en hélico, eh ben ça monte sur notre dos. Donc on a un accès qui est assez facile, dans le sens où on a 1h15 de marche Tempano, donc là c'est pour l'été, hein, de marche Tempano depuis le parking du pont Saint-Charles. On remonte les gorges de Malpasset et on arrive au refuge. Mais n'empêche qu'il faut tout porter sur le dos si ça monte pas en hélico. Donc en début de saison, comment ça se passe? Eh ben, c'est un grand casse-tête. On passe toutes les commandes, on réceptionne tout et il faut que tout soit arrivé, eh ben, le jour de l'héliportage. Donc quand je dis tout, c'est autant le bois qui va nous permettre de chauffer le refuge en début et en fin de saison, ou les jours où il fait un peu frisquet, parce qu'on est à 2324 mètres d'altitude, donc il peut neiger à tous les mois de l'année. Mais également le gaz qui va nous permettre d'avoir de quoi cuisiner, mais également de quoi faire de l'eau chaude quand on n'a pas assez de puissance en début de saison par rapport grâce à la pico centrale et au panneau photovoltaïque. C'est aussi là où on va monter tout ce qui est fût de bière, fût de limonade. Alors j'ai fait le choix du fût pour avoir le minimum de déchets, et du coup on fait un héliportage en fin de saison pour redescendre tout ce qui n'a pas été redescendu en cours de saison sur notre dos. Toutes les grosses choses, donc les bouteilles de gaz, les fûts de bière, les fûts de limonade, les bocaux, parce que je fais une grosse partie des confitures et des compotes moi-même, et avec l'aide de ma sœur qui a une entreprise qui permet de les fabriquer. Et du coup, tout ça, ça s'héliporte. Donc cette année, on a fait 14 rotations de 750 kilos. Et c'est le moment où avoir des super copains et une super famille et des super être bien entouré compte énormément, parce que en l'espace d'une journée, on héliporte la totalité de tout ce qui va être consommé pendant la saison. Et après, en cours de saison, il y a uniquement du frais qui remonte via notre dos ou le dos des amis. Donc en gros, à chaque fois que quelqu'un de l'équipe descend en congé, il descend des poubelles. Et à chaque fois qu'il remonte de congé, il monte du frais. Donc ça va être des œufs, des fruits et légumes, du fromage, du beurre. Du coup, l'équipe descend régulièrement dans la vallée pour ses congés. Quelqu'un qui descend tous les 3 jours. Et moi, je descends. Alors l'année dernière, c'était ma première saison. J'ai eu du mal à lâcher le refuge. Donc je suis peu descendue plus loin que le parking ou la banque. voilà. Et je suis descendue 2 fois un peu plus loin à faire des courses. Des jours, il faisait pas beau. Mon idée cette année, c'est de descendre une fois par semaine, parce que j'ai besoin, je pense, de descendre plus régulièrement. Et puis parce qu'il y a des choses que je peux pas déléguer à l'équipe. L'année dernière, j'ai eu la chance sur la première saison d'être entourée de ma mère, qui avait posé un congé sabbatique et du coup qui a été là pour m'épauler toute la première saison, et du coup qui a pu faire le lien aussi avec la banque et d'autres fournisseurs. Mais cette année, du coup, elle a repris son chemin de vie à elle, professionnellement. Et du coup, cette année, c'est à moi de descendre. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles descendre dans la vallée, pour moi, me semble important. Il y a la façon très pratique où j'ai besoin de descendre à la banque et de faire des courses. Et entre les deux, je me pose à la boulangerie et je bois un café et je mange un croissant et j'appelle les autres copains gardiens. Et puis, j'ai une passion qui est la danse. Et en fait, la dernière, j'ai pas dansé de l'été et ça m'a énormément manqué. Et du coup, cet été et les étés qui suivent, mon objectif est d'arriver à descendre 2 à 3 fois dans la saison, 2 jours d'affilée, pour pouvoir aller danser soit en Italie, parce qu'il y a des festivals juste de l'autre côté de la frontière. Et cette année, du coup, l'équilibre, j'essaye de le trouver également en faisant monter des artistes au refuge. c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de développer le côté artistique et culturel au refuge, parce que ça fait partie de ma personnalité et de qui je suis. J'ai organisé des gros festivals pendant des années et j'ai vraiment envie de faire monter l'art et la culture en refuge. On a également des concerts de prévus, donc entre autres Pastobal, qui seront là le 2 août. On a également Monsieur Fruit, qui est un ami qui vient de Saint-Malo, guitariste, chanteur. Paul, un ami qui vient en solo avec son accordéon chromatique. On a une soirée conte. En fait, le refuge, c'est un peu comme une mini-société. On retrouve différents types de populations, différentes habitudes. Et il faut, nous, en tant que gardiens, gardiennes, et ben en fait notre rôle c'est que tout se passe bien. On accompagne avec notre équipe, on accueille, on rassure. Et en fait ça nous apprend à être, moi, à être très humble et à être à l'écoute de notre environnement et des gens qui viennent, parce qu'on sait jamais. Tous les jours c'est des gens différents et tous les jours c'est une surprise et tous les jours c'est des rencontres. Moi ça m'a demandé de lâcher tous mes a priori sur les gens et d'être vraiment dans l'instant présent et dans la rencontre et d'accepter tout le monde tel qu'il est. En fait, je peux aussi comparer ça un peu à un navire où le gardien de refuge, la gardienne et le capitaine, et ou un berger. Et en fait, c'est beaucoup de bienveillance. C'est anticiper, c'est rassurer, c'est concocter des bons petits plats, c'est prendre soin, c'est prendre soin des gens et de leur offrir le temps d'une soirée, la possibilité de se dire que loin du monde connecté à 100 à l'heure, eh ben on peut passer un moment incroyable sans smartphone, sans tablette, sans ordinateur, juste être autour d'une table et échanger. Alors ce que j'aime dans cette vie-là, alors en fait dans mon ancienne vie, avant d'être gardienne, j'étais responsable d'une coopérative bio indépendante dans la Drôme, à Die. Et j'étais très très investie et je bossais 70 heures semaine, toute l'année. Et en fait, je crois que je sais pas ne pas bosser à fond. Et à un moment donné, j'aurais pu faire ça toute ma vie parce que c'est un métier qui me passionnait. Développer une économie locale grâce à l'installation d'agriculteurs en bio dans une région, je trouve ça hyper chouette. Et je trouve que c'est un métier qui avait du sens de faire ce lien, en fait, être le maillon entre la fourche et la fourchette. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu pendant des années. Et puis un jour, j'ai eu envie de faire autre chose. Et je me suis dit, je ne sais pas faire un métier si j'ai l'impression de travailler. En fait, ce que j'aime, c'est que quand je suis au refuge, j'ai juste pas l'impression de travailler. Je suis juste au refuge et j'aime ce que je fais. Et du coup, quand j'ai quitté mon ancien boulot, je me suis dit, le prochain métier que j'exerce, c'est un métier où c'est très intense, 6 mois de l'année. Et le reste de l'année, j'ai du temps pour moi. Trouver un équilibre comme ça, parce que sinon, je ne sais pas m'arrêter. Et donc, je trouve ça dans le refuge. Et j'ai le reste de l'année pour vadrouiller, pour faire de la rando, pour alors aussi faire toute la logistique refuge avant et après saison, parce que mine de rien, il y a toute la compta, toute la partie gestion, toute la partie administrative qui est présente, plus toute la prépa, pour moi, préparer les savons, pour moi, faire les confitures, les chutneys, les compotes, les tabliers, les torchons, les crèmes pour les mains, pour les aides-gardiens, pour qu'ils soient hydratés, qu'ils aient pas les mains toutes sèches tout l'été. Tout ça, c'est que du bonheur. La côté gestion et administratif, c'est un peu moins mon kiff quand même. Mais faut le faire et ça fait partie des choses que je sais que je fais plutôt bien et je suis bien entourée, donc ça c'est, s'il y a un truc qui me plaît je pense un peu moins, c'est bien cette partie là ce que j'aime dans le refuge, c'est l'intensité de nos journées, c'est que tous les matins on se lève et qu'en fait on sait pas ce qui va se passer. On sait qu'on a une journée type, donc on se lève, on sert les petits déjeuners, on fait le ménage, on prépare le repas du midi, le service du midi, on fait le service du midi, on fait la plonge, on rentre qui sur le soir. Mais en fait, au milieu de tout ça, il va se passer 10 000 choses. Il y a le JPAET qui va passer et le temps va s'arrêter parce que il y a le JPAET qui est le plus grand rapace de France. qui passe au-dessus du refuge. Et là, c'est juste un cadeau de la vie, parce que y a tous les bouquetins qui débarquent, ou parce que ben on a les captages d'eau capétés et qu'il faut aller leur mettre, voilà, parce qu'il y a un secours, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé plus haut et qu'il faut appeler les secours en montagne, donc le PGHM par exemple, et voilà, c'est tous les jours, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Et en fait, cet instant, le côté, on doit tout le temps s'adapter. Et on pense que la journée va être tranquille, en fait, pas du tout. Et le soir, on se couche et on se dit « Waouh, il m'est arrivé tout ça dans la journée, mais c'est trop dingue ». Et ça, ça donne envie de se relever le lendemain. Et encore plus, même si on se lève très tôt, même si c'est super intense, eh ben, ça donne envie de se lever le matin, de vivre cet instant. On est vraiment dans l'instant présent, en fait. On est vraiment connecté aux éléments. Il fait pas beau, on voit moins de monde. Il fait grand beau, on a plein de monde. On s'adapte tout le temps et c'est très chouette. En fait, quand j'étais, il y a un truc qui m'a toujours motivée dans la vie, et c'est un ami musher quand j'étais petite qui m'a sorti cette phrase, qui m'a toujours dit dans la vie, pour être heureux, il faut pas avoir de difficultés à se lever le matin et à sortir du lit. Et ici, même si les journées s'enchaînent de façon très intense et que je dois dormir 35 heures semaine, j'ai jamais aucune difficulté à me lever le matin, même à 5 heures, même quand ça pique. Même si je me suis couché à 1h du mat la veille, je me lève. Et cette énergie que nous donne la nature, l'environnement, et cette connexion à des choses très simples et essentielles pour moi, fait partie des petits bonheurs de la vie. Et être ici, c'est une joie au quotidien. Et je pense que pour rien au monde, j'échangerais cette vie-là, même si elle est très intense, par rapport à tous les petits cadeaux que nous fait la vie, et on devient, on réapprend à s'émerveiller de tout, et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et du coup, c'est système D tout le temps. J'ai appris à faire de la plomberie, de l'électricité, ça m'a grandi d'être ici, de par les échanges humains et de par, les défis au quotidien que met le refuge, face à moi, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'apprentissage sur soi-même au quotidien.
Cet entretien a été proposé et réalisé par Victoria Guillaumont pour Les Déviations. La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre de l'association 82-4000 qui ouvre la voie de l'alpinisme aux personnes en situation de précarité. Aurélien, guide bénévole et son équipe, nous inviteront au cœur de leur univers. Si cet épisode vous a parlé, commentez, taguez vos amis et partagez-le avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et vos plateformes d'écoute préférées. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.